16h, 17h, chacun son tour, avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour, et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de chacun son tour, Ramadan 2024. Et puis, comme on ne change pas une équipe qui gagne, on rempile pour une année avec le chef Enzem.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir.
Comment ça va, Nabil?
Eh ben, ça va, ma foi, ça va super. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, cher Manuel. Autour du Ramadan, parce que moi déjà c'est l'occasion d'apprendre avec vous la cuisine, parce que vous avez une belle connaissance et on parle cuisine, et vous savez que moi il y a les réseaux, c'est une bonne chose.
Il est flatteur.
Mais il y a la cuisine et c'est la cuisine avant tout. Moi c'est ma passion, donc toujours un plaisir d'apprendre la cuisine.
Oui oui, bien sûr. Et puis surtout vous apprenez aussi. Pourquoi je te vous vois maintenant?
Ah mince.
depuis que t'es une star des réseaux sociaux et puis de la télévision maintenant. Je me mets à te vous voyer.
Mais c'est vrai qu'en vérité, on se tutoie en dehors et depuis très très longtemps, et on a décidé de en radio de faire le vouvoiement. On va rester sur le tu, hein.
Ouais,
tu sais,
ouais,
quoi,
non, c'est plus mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, hein. Pas de faux semblants.
Pas de faux semblants. Allez, Manu, je suis très content de te retrouver. Je suis très content de retrouver tout le monde par les recettes.
Moi aussi. Et puis, je suis content que t'aies pu te libérer parce que il y a de plus en plus de. On va parler un peu quand même de ton actu avant d'attaquer cette saison, parce qu'il se passe plein de choses. T'as de plus en plus de gens qui te suivent.
Il y en a 100 000 de plus que l'année dernière déjà.
Ouais,
et
c'est gros.
Il y a beaucoup plus de passages télévisés, de passages radio. Et effectivement, ça veut dire que le travail n'était pas un phénomène de mode, que l'anti-gaspi, je ne l'avais pas pris pour un effet de mode. Je le travaillais depuis bien longtemps et c'est toujours mon credo et ça marche encore.
Ouais, avec tes fameuses recettes recettes de la flemme du chef Enzem. On va faire des recettes anti-gaspi et en plus qui sont faciles et souvent très rapides à faire.
L'idée pour ce Ramadan, effectivement, vu qu'on va finir un petit peu plus, on va manger un petit peu plus tôt que d'habitude.
Bah oui.
Les 15 premiers jours, on va manger vers 18h50, 19h.
C'est
et
ça.
Ensuite, on va prendre une heure de décalage, vous savez, le fameux changement horaire.
Ouais.
Et l'idée, on va penser aux gens qui rentrent du travail vers les coups de 17h30, 18h, qui n'ont pas forcément le temps de préparer.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous retrouve de 16h à 17h cette année, non pas 17h à 18h.
16h-17h, c'est ça. Donc 16h-17h.
Vous avez le temps de faire vos courses ou de cuisiner.
Bah tu fais bien de me prévenir parce que j'allais venir à 17h-18h. Donc.
Ah bah non, bah non.
Okay.
Heureusement que tu arrives en avance.
Alors 16h-17h, ça sera du lundi au vendredi. Des recettes qui sont à la fois accessibles, pas chères, bonnes. On va pas forcément rester sur les recettes orientales parce que on a compris que pendant le Ramadan, même si on aime bien la traditionnelle brique, la charba, la khlera, tout ce qu'on aime, on aime aussi de temps en temps, voilà, faire des recettes plus rapides, plus faciles, plus accessibles. Selon les gens qui parce qu'il n'y a pas que des musulmans qui pratiquent.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Enfin, il n'y a pas que des musulmans. Il n'y a pas que des arabes qui pratiquent le ramadan. On a de toute origine.
Non, voilà. C'est sûr. Alors, justement, d'ailleurs, hein, pas forcément des recettes orientales. Donc, aujourd'hui, on va partir un petit peu en Italie. Mais tu vas nous faire, parce que tu vas nous faire des gnocchis.
Ouais.
Mais des gnocchis à l'oriental quand même.
Des gnocchis à l'oriental. On a quand même une petite touche d'oriental.
Petite signature chez Enzem.
Une petite signature, non, parce que j'avais trouvé ça très sympa. On part sur des gnocchis. Alors là, c'est peut-être pas la recette de gnocchi qu'on va faire quand on rentre tout de suite du travail, sauf si on a le temps, parce que pour faire des bonnes gnocchi, il faut les mettre au four. On les met pas à l'eau. D'accord? On peut les mettre à l'eau, il n'y a pas de souci, mais elles vont se gorger d'eau. Et si elles se gorgent d'eau, on va devoir mettre beaucoup plus de farine.
D'accord.
Plus il y a d'eau dans la pomme de terre, plus on va mettre de farine pour qu'elle sienne, moins on aura le goût de la pomme de terre et le gnocchi sera, à mon avis, indigeste.
Alors, très bon conseil, effectivement, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est le grand moment quand même.
Ah, il y a le jingle.
Ton jingle, t'as manqué.
Ah, mon jingle. Oh là là, vas-y.
Ton fameux jingle, c'est toi qui le lance comme d'hab.
Ouais, bah écoutez, on commence le Ramadan cette année avec mon jingle.
Les recettes de la flemme du chef Enzem.
Oh là 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 là.
Ah là là, ce jingle.
Quand tu m'as fait ce jingle la première fois, tu sais que j'étais.
Ah, et sur mesure. Hein.
Ah, et sur mesure. Avec la bonne voix bien rauque du chef Enzem. C'est bon.
Oui, on a booké Stallone pour ton jingle.
Bah, je l'ai vu sortir des locaux là, Beurre FM.
C'est ça.
Ok.
Sylvestre. Bon. Bah, alors, des gnocchis à l'oriental. Alors, les gnocchis, hein, c'est très emblématique de la cuisine italienne, notamment florentine, milanaise, etc. Alors c'est différent d'ailleurs, hein, les gnocchis à la milanaise, etc. Il y a des gnocchis qui sont sous forme de galettes un petit peu. Il y en a d'autres qui sont des petits comme des petits boudins là, hein, des petites.
Oui, exactement. Ouais. Mmh. Il y a y a toute forme. Là, l'idée, c'est de pas se prendre la tête forcément avec la forme, sauf si vous avez envie. Pourquoi on met la forme fourchette et les rayures? C'est forcément pour que la sauce adhère.
Eh ben oui.
Voilà, comme certaines pâtes qui permettent effectivement les pâtes à trous ou les pâtes qui sont rayées, comme les rigatoni ou tout ce que vous voulez, c'est pour que la sauce adhère. Donc finalement, la forme, bon, vous pouvez vous en passer, sauf si effectivement vous avez le temps et la technique pour le faire. Moi, ce que je vous demande déjà pour cette recette,
il y a une mode d'ailleurs. Excuse-moi, je te coupe, mais il y a une mode chez les chefs, c'est de ne pas rayer les gnocchis, ce qui est
moi, je les raye pas.
Parce que la sauce en fait elle glisse dessus. L'intérêt, c'est que la sauce accroche. C'est pour ça qu'on fait les penne rigatés, etc.
Exactement, ouais. Exactement. Alors moi je suis effectivement de ceux qui ne les rayent pas, mais pourquoi? Parce que je les fais en sauce et je les mange à la cuillère parce qu'ils sont gratinés, les miens. Donc effectivement, là, la sauce adhère,
bon,
on récupère ça avec
c'est bon.
Exactement. Alors n'hésitez pas à utiliser vos pommes de terre germées, ça c'est très important pendant le ramadan, ne les jetez surtout pas. Vous allez avoir des pommes de terre germées, vous allez pouvoir en faire des gnocchis. Pourquoi? Parce que la pomme de terre germée perd son humidité, et moins elle a mis d'humidité la pomme de terre, plus elle se prête aux gnocchis. Donc la pomme de terre germée, la pomme de terre fripée, la pomme de terre vieille, si vous les trouvez, déjà sachez que ça se mange, c'est comestible, et sachez que vous pouvez en faire des délicieux gnocchis. Donc qu'est-ce qu'on
fait?
Oui,
le germe, c'est rien de grave. La pomme de terre va être un peu plus desséchée, mais
c'est très bien.
Mais c'est pas mal du tout, puisque en général, quand on fait une purée, on la met sur le feu pour la dessécher, justement.
Exactement.
Donc,
et pour les
pommes de terre germées pour la purée, c'est idéal.
Exactement. C'est parfait pour la purée, c'est parfait pour ça. Et puis personne mange le germe. Enfin, je veux dire, on va l'éplucher, on va l'enlever. Donc le germe, on s'en fout un peu. Mais c'est vrai que beaucoup de gens les jettent. Donc pour faire ces gnocchis, premier conseil, vous mettez votre plaque sur votre plaque de four du gros sel. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Ça va encore pomper de l'humidité. C'est ça, c'est le gros sel qui capte l'humidité de la pomme de terre. Donc ce qu'on appelle en
ça, c'est l'astuce. Hein.
Quand on met du gros sel pomme de terre, c'est une cuisson en.
En robe des champs.
Exactement, ouais. Parfait. Et vous voyez,
j'ai révisé.
Manu est bon. Donc on met ça sur du gros sel, 45 à 1 heure. Voilà, 45 minutes, 1 heure à 180 degrés.
Mais on les enveloppe ou on les laisse
rien
juste dans la
tout.
Peau. Juste dans leur peau pour bien les dessécher. Hein.
Dans leur peau, et en fait, on va pomper toute l'humidité. Ça va être complètement desséché. Et ensuite, pour faire des bons gnocchis, je vais vous donner une technique. Plutôt que vous prendre la tête à éplucher vos pommes de terre qui sont chaudes, vous prenez un torchon, vous mettez votre pomme de terre sur le torchon, un petit coup de couteau au milieu, bam, vous la fendez en deux la pomme de terre et à la cuillère. Et voilà, on
comme les aubergines.
Et voilà. Et donc, et c'est là qu'on se rend compte que le germe, la peau, tout ça, bah, même si c'est germé, bah, on s'en fout puisqu'on prend l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. C'est vrai qu'on peut passer la pomme de terre au tamis, dans un presse-purée, mais nul besoin. Elle est déjà en purée. Ce qui est très important pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, par contre, et ça, j'insiste, on travaille la pomme de terre à chaud. On ne travaille pas la pomme de terre à froid. Pourquoi? Parce qu'elle va corder. Corder, ça veut dire qu'elle va devenir élastique,
oui,
caoutchouteuse. Si vous attendez qu'elle refroidisse pour mettre votre jaune d'œuf et pour mettre votre farine, vous allez avoir quelque chose d'hyper caoutchouteux.
À faire une mayonnaise.
Bon courage. Bon courage. Donc, on prend son petit torchon, on l'ouvre en deux, on récupère la pulpe de pomme de terre. Et là, le dosage est très simple. Si vous mettez 6-7 grosses pommes de terre ou moyennes pommes de terre, vous allez avoir forcément une réduction du poids une fois sorti du four.
Ouais, avec l'humidité.
Voilà,
ouais.
Tout ça qui est parti, la peau qui va rester, la chair qui va rester sur la peau. Donc, moi, je vous donne une astuce. Comptez 300 grammes de pulpe de pommes de terre, c'est-à-dire que vous avez retiré de votre pomme de terre. Comptez 300 grammes, à peu près. Hein,
par personne
pas, hein. Pas personne, hein, pour deux personnes.
Non, par personne, je parlais pour moi. Hein.
Ah oui, 300 grammes pour deux personnes à peu près. Mais 300 grammes, je vous donne la mesure pour des gnocchis parfaits. C'est, après, vous multipliez les quantités si vous êtes nombreux, bien évidemment. Mais pour deux personnes, deux, trois personnes, 300 grammes de pulpe de pommes de terre. Donc pulpe, on parle de ce qui est cuit, pas accru. Pulpe, ouais. C'est vraiment ce qui a été récupéré de la pomme de terre intérieure. 300 grammes. On y mettra 60 grammes de farine et un jaune d'œuf. On se rend compte qu'on a très, très, très,
j'ai
très
une question,
peu de farine.
Pourquoi on met de la farine et pas de la fécule de pomme de terre, justement, puisqu'on est sur de la...
Moi, j'utilise la fécule de pomme de terre, mais elle est déjà beaucoup plus onéreuse que la farine. Ça fait des gnocchis très luxueux. Elle est plus difficile à trouver.
D'accord.
Donc, celui qui va faire son petit marché
on
ou
parle
qui
de
va
la maïzena, hein, la fécule de pomme de terre, hein, c'est ça. Ouais.
Maïzena, ça c'est fécule de maïs, mais je veux dire fécule.
Ah oui, c'est vrai, oui.
La fécule de pomme de terre va donner un goût supplémentaire de pomme de terre, mais elle est plus chère.
Ouais,
on va être à 3€ le petit paquet. Les gens vont pas avoir du souci à trouver.
J'ai dit fécule de pomme de terre. Je pensais à fécule de maïs.
Fécule de maïs, maïzena, ouais. On pourrait, mais alors la fécule de maïs seul sur le gnocchi va donner une texture qui est moins qui est un peu plus délicate.
Il faudra
faire quoi qu'il arrive un mélange maïzena pomme de terre. Maïzena farine.
Ouais.
Il faudra quoi qu'il arrive. Donc moi pour ma recette
ça, prend la farine classique, T45 ou T55, c'est la farine qu'on a tous dans le placard.
Prenez la farine qui est dans le placard, faut pas se prendre la tête déjà avec la complexité. La recette peut paraître déjà complexe, donc vraiment vous faites au plus simple. Et donc retenez bien, 300 grammes de pulpe de pomme de terre, donc la partie qui est cuite, avec un jaune d'œuf, 60 grammes de farine. C'est pas plus compliqué que ça. On mélange.
Simple, c'est des trucs qu'on a tous à la maison, c'est pour ça que c'est, il y a même pas besoin de faire de courses, on rentre du boulot.
Exactement.
Et on peut faire ça rapidement, quoi.
Exactement. Et ce qui est très intéressant lorsque, qu'on va faire ces gnocchis, vous l'avez bien vu, c'est qu'on a mis très peu de farine. Très peu de farine. 60 grammes, c'est dérisoire. Donc la pomme de terre va paraître un peu élastique quand on va manger, enfin élastique, très difficile à manipuler. Ouais. Parce qu'on se dira, oh non, on va vouloir tomber dans le piège de rajouter de la farine. Surtout pas faire ça. L'astuce pour ça, c'est
de
fleurer.
Ils vont dessécher un petit peu au four en plus.
Non mais c'est même pas ça, c'est que il faut le moins possible et les gens quand ils ont une pâte qui est trop collante et tout ça, ils se disent, oh, je vais rajouter de la farine. Le problème, c'est que le gnocchi a le goût de farine après. Moi,
c'est comme
ça...
une pâte à choux. Quoi. Il faut pas qu'elle soit sèche, sinon c'est pas bien. Quoi.
C'est exactement ça. Ce que je vous demande de faire à la maison, c'est une fois que c'est étalé, ne tombez pas dans le piège de rajouter de la farine. Fleurez plutôt le plan de travail. C'est là que vous allez en posant votre
alors,
boule.
Alors fleurez le plan de travail pour les profanes. Hein, c'est
ah oui, pardon.
C'est envoyer un peu de farine sur le plan de travail.
Voilà. Vous voyez le pizzaiolo.
Voilà. Pour pas que la pâte colle au plan de travail.
Exactement. Hein. Donc voyez ce geste que vous avez toutes et tous vu. Quand on jette un petit peu de farine sur le plan de travail, c'est ce qu'on appelle fleurer. Et ben c'est ça qui vous permettra de pouvoir travailler votre pâte à gnocchi. Donc vous étalez en plusieurs boudins. Attention, ne travaillez pas le gros bloc de farine, enfin le gros bloc de pâte de pomme de terre en une fois. Vous allez galérer. Coupez ça, portionnez ça et faites des petits boudins. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à portionner vos gnocchis. C'est très simple. Toujours un plan fariné, toujours, ça vous évite de mettre trop de farine. Attention, ne mettez pas trop de farine sur le plan. Hein. Quand on dit fleurer, c'est vraiment une fine pellicule de farine et ça suffit. Ensuite,
alors là, on a les gnocchis, maintenant on va faire le à l'oriental, j'imagine.
Exactement. Donc, cuisson à l'eau, classique. Dès qu'il remonte, c'est prêt. Donc, dès que les gnocchis remontent à la surface, c'est prêt. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par oriental? Eh bien, c'est très simple. Vous allez dans une poêle beurrée. Hein, une poêle avec un petit peu de beurre, ils mettent un petit peu de ras el hanout, donc ça va vous faire un beurre de
en fait torréfier le ras el hanout, ça va développer les arômes.
Torréfier, mais pas brûler. J'entends déjà les cris des casseroles à la maison.
Ah oui,
on entend le champ brûlé. Déjà, vous brûlez le beurre et en plus, vous brûlez les épices.
Ouais, le beurre, c'est pas l'huile d'olive. Hein, on met pas ça à fond.
Hein. Exact, sauf un beurre clarifié. Mais là, on est sur un beurre classique. Donc, beurre, ras el hanout. Vous laissez chanter à peine, ça doit crépiter. D'accord? Et une fois que ce beurre au ras el hanout commence à crépiter, vous y balancez vos gnocchis, vous les enrobez de cela. Vous pouvez y mettre une pointe au lieu de mettre de la crème liquide, une pointe de leuben. C'est du lait.
Bah oui, voilà, c'est un beurre clarifié.
Du lait fermenté.
Non, je confondais avec
le ghee.
Le ghee,
ou le smen.
Ouais, voilà.
Non, on peut y mettre de la crème, on peut y mettre un peu pour le rendre onctueux, un peu de le bun, c'est ce fameux lait fermenté. Quelques raisins secs, si on veut faire voyager la pomme de terre, d'autres épices, ce qu'on veut, vraiment, c'est ce qu'on veut. Et puis pour accompagner ça, hein, on se demande souvent, eh ben, un bon pinot noir. Non, je rigole. Une viande ou un poisson.
Chef Enzem, on est en ramadan.
Sartek,
le pinot noir.
Et pour accompagner ça, une bonne volaille ou un bon poisson. Voilà.
D'accord, oui, un petit filet de poisson avec ça, c'est nickel. Ouais.
La pomme de terre, elle se marie avec absolument tout.
Alors,
donc les gens montreront.
Mais vous m'aviez parlé de passage au four. On fait gratiner le tout.
On peut faire gratiner le tout avec
un peu de fromage.
On peut faire une crème de parmesan, une crème de comté, c'est-à-dire on mélange crème liquide et fromage au préalable. Toujours le double de crème par rapport au poids de fromage, donc 200 ml de crème liquide. Ou alors 200 grammes de crème liquide pour 100 grammes de fromage. On fouette, on a notre crème de fromage, on met ça sur notre plat à gratin avec nos gnocchis, ça part au four et c'est gratiné.
Nickel, pile poil à l'heure. Chef Enzem, on se retrouve demain pour une autre recette.
Avec grand plaisir, j'ai
hâte. Et puis, vous restez avec nous puisqu'on va retrouver notre invité du jour et nos influenceurs qui vont nous donner des bonnes idées pour aller faire le tour à l'extérieur de la maison. Allez, à tout de suite, on se retrouve.
Chacun son tour revient dans un instant. 16h, 17h, chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans Chacun son tour. Bon, après cette sympathique recette du chef Enzem qui était plutôt véggie puisqu'il nous a proposé, comme vous l'avez entendu, des gnocchis à l'oriental. On va passer dans un aspect un peu plus viandard avec notre invité du jour. C'est Wadi Jriri que vous connaissez pour certains d'entre vous déjà. C'est l'atelier de la viande halal et bio. Bonjour Wadi, comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi Manu?
Ça va, là tu rentres dans la grande ligne droite du ramadan là.
Ah là ça y est, là c'est lancé là.
T'as pas encore les... parce que l'année dernière on t'avait vu un peu plus tard pendant le ramadan, t'es arrivé avec des cernes sous les yeux, pas possible. Là ça va, t'es encore frais mais ça va pas durer, je le sais.
Là j'ai une équipe, donc ça aide.
Ouais, c'est vrai que t'as une très belle équipe hein, dans ta boutique dans le 12e, 55 rue Claude Decan, on dit de Caen.
Claude Decan, ouais, 55 rue Claude Decan.
D-E-C-A-E-N. Bon, de toute façon, Le plus simple, c'est d'aller sur ton Instagram, l'atelier de la viande, sans apostrophe, tout attaché.
Voilà, on a toutes les infos.
Et on a toutes les infos. Bon, alors Wadi, pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, toi tu viens de la finance à la base, puis un jour tu t'es reconverti.
Exactement.
Dans la viande halal et bio, hein, des viandes premium, puisque tu ne fais que des viandes de race. Qu'est-ce qui t'a motivé à te spécialiser dans les viandes de race halal et bio, hein? Ça fait
bien sûr. Bah, tout d'abord, c'est parti d'un besoin personnel. C'est ce que j'explique à tout le monde lorsqu'on a envie de réaliser un projet ou voilà de réaliser un rêve. Qui pour moi c'était vraiment un rêve d'avoir une boucherie de qualité sur Paris. D'abord, j'ai répondu à une demande et de plus, je me suis dit bon, c'est quoi qui serait le plus important pour moi? Et ben, je suis parti directement sur du qualitatif. On en manquait, on en manque toujours, et aujourd'hui, ben, on a l'avantage d'avoir de plus en plus de boucheries qui travaillent de cette façon.
Ouais. Alors c'est vrai que justement, hein, auparavant, il y a encore de ça une dizaine d'années, quand on achetait de la viande halal, hein, c'était souvent de la vache de réforme. Alors on va expliquer ce que c'est que la vache de réforme, mais c'était la caractéristique des viandes halal, c'est la seule caractéristique, c'était qu'elles étaient halal. Mais c'est vrai qu'il y avait pas de viande de race, il y avait pas de viande de qualité, on trouvait effectivement que de la vache de réforme. La vache de réforme, c'est quoi? C'est les vaches laitières qui ont tellement allaité que bon, elles ont plus de lait, elles peuvent plus avoir de veau. Donc on les met dans une étable, on les engraisse pendant quelques mois pour qu'elles soient de nouveau en chair, hein.
Ouais, c'est
donc
ça,
on les engraisse un peu artificiellement, on va dire,
hein. C'est les vaches en fin de vie,
et on les envoie à l'abattoir. Donc c'était un peu des vieilles carnes, et c'est vrai que j'imagine c'est ce qui t'a poussé à toi faire des viandes halal mais premium. C'était effectivement l'absence de viande de qualité en version halal.
Il y a de ça. Il y a aussi qu'il y avait une forte demande aussi.
Ouais.
Faut savoir qu'aujourd'hui, le musulman qui travaille en couple a un pouvoir d'achat supérieur et qui lui permet de pouvoir manger de la viande de qualité. On a mangé pendant des années de la viande qui était...
Ouais, c'est ce que les sociologues appellent les bourgeois.
C'est peut-être le terme qu'ils utilisent. On va dire que c'est ceux qui recherchent de la qualité, quoi.
Non, mais c'est vrai que, de toute façon, c'est pas, bon, comme tu le sais, je suis pas un spécialiste de la religion et encore moins de l'islam, mais c'est vrai que dans l'islam, il y a un attachement à avoir à une nourriture saine et de qualité. Et c'est vrai.
Exactement.
Que sur la viande halal qu'on trouvait en France, c'était pas forcément le cas. Bon, alors heureusement, ça a changé depuis, parce que il y a des boucheries comme les Jumeaux et toi, vous avez été un peu précurseurs là-dessus. Et aujourd'hui, ça fleurit un petit peu partout.
Ah oui, ça a évolué.
Vous avez fait plein de petits. Vous avez une famille nombreuse avec les Jumeaux.
Bah, ça fait plaisir, ouais. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde déjà. Et il y a de plus en plus de bouchers qui aujourd'hui, on essaye de moins faire des hanouts, hein.
Ouais.
Tu vois, les petites épiceries orientales. Et faire des boucheries. Après, c'est sûr que maintenant, les gens vont se former à l'école. Avant, c'était le problème. Ils reprenaient la boucherie du père et ils attaquaient avec ce que leur père leur a appris. Mais leur père, il a appris ce qu'il a appris au bled. Et ça se transforme en du volume. Mais
ouais.
En passant par l'école, on arrive à faire... Et de plus, notre clientèle,
Je me permets de te couper, tu fais de la qualité, ça t'empêche pas de faire du volume.
Ah oui, ça va dépendre. Moi, ça fait 7 ans maintenant. On est sur un travail qui est difficile, quoi. C'est tout le temps, tous les jours. C'est plus, nous, on est ouvert 7-7. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a possibilité de faire de la qualité, de faire du volume, à condition d'être très concentré, de bien garantir le halal. Et de plus, le bien-être animal.
Ouais. Alors, on parlait de viande de race. Alors, quelles sont justement, pour les auditeurs qui nous écoutent, les différences entre des viandes de race, hein, on appelle ça des races à viande, ou des viandes classiques, hein, vaches de réforme, normandes et autres. Et quelle différence donc entre ces viandes de race et une viande classique en termes de goût, en termes de texture?
Déjà, lorsqu'on va parler de viande racée, ça va être des races qui vont être nourries à l'herbe. Et ce qui est le plus important dans l'alimentation, donc pour une vache. Ça va être souvent des races robustes, Aubrac, Salers, Limousine, Charolaise. Là, je parle vraiment sur les races françaises. Et l'avantage qu'on a avec ces races-là, c'est qu'on peut les trouver. Elles restent à des prix accessibles. Et d'un point de vue aussi cahier des charges, On est vraiment sur un cahier des charges exigeant.
D'accord. Oui, donc il y a le cahier des charges bio. Alors même si maintenant, merci Bruxelles et l'Union européenne, on n'a plus le droit de dire qu'une viande est halal et bio, c'est officiellement.
C'est plus possible.
Moi, je le dis quand même parce que Bruxelles, je m'en fous. Mmh.
Moi, je sais pas si
tu peux pas l'afficher parce que t'as des obligations légales. Mais voilà. Bon, parce que c'est vrai que justement, oui, il y a les ceux qui se disent les amis des animaux qui ont fait pression et ils ont fait du lobbying à Bruxelles pour que on ne puisse plus dire qu'une viande est halal et bio parce qu'ils considèrent que une bête qui n'a pas subi d'électronarcose souffre plus qu'une l'abattage rituel, on coupe une artère qui irrigue le cerveau quand il y a plus de sang au cerveau la bête elle souffre plus
la veine jugulaire on en a pour 8 secondes après ça voilà chacun ses débats mais ce que je veux juste dire par rapport à l'abattage en bio et rituel en bio tout simplement, rien n'a changé. Il y a 40 fous qui ont commencé à monter un petit groupe. Les abattoirs continuent à travailler avec nous. Nous, on continue à acheter nos bêtes. On ne peut plus l'afficher. C'est dans nos droits de pouvoir acheter des bêtes issues de l'agriculture biologique.
Bon alors, lui, il n'a pas le droit de le dire. Moi, je le dis chez Wadi, à l'atelier de la viande. Les viandes sont bio.
Elles
ont le même cahier des charges dans tous les cas.
Ouais, voilà. Exactement.
Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu as le droit légalement de dire viande halal élevée selon le cahier des charges de l'agriculture bio ?
On peut mettre viande... issus de l'agriculture biologique élevée selon le cahier des charges.
D'accord, oui.
C'est que des mots, c'est comme toujours.
C'est vraiment des trucs de rond de cuir.
Moi, ce qui est sûr, c'est que rien n'a changé depuis les 7 ans où je travaille.
Oui, de toute façon, t'as plus le droit de dire que tes viandes sont bio, ça n'empêche que t'as de plus en plus de monde et de plus en plus de clients.
Notre clientèle, nous
y compris hors communauté, parce que toi, je sais pas si ça a changé depuis que t'as ta nouvelle boutique, tu t'es agrandi, mais c'est vrai que la particularité, je vais y arriver, c'est que ta boutique est fréquentée en majorité par des gens qui ne sont pas de la communauté.
Exactement, des non-musulmans. Donc l'avantage d'avoir une boucherie non communautaire, c'est qu'on a une demande de partout. Et en fonction du travail qualitatif, on arrive à rassembler tout le monde.
Bon, vous avez entendu dans les propos de Wadi qu'il était en train de sourire en parlant. C'est parce que notre ami Salah... Hein, de la fameuse brigade.
Bonsoir.
Salah est là. Ça va, Salah ?
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça fait plaisir, Walid, de te voir.
Ouais, moi aussi, merci. Moi aussi, ça fait plaisir.
J'entendais dans la voiture parler de viande.
Bah oui.
C'est très dur, tu sais, quand Walid il parle de viande, ça donne.
Ouais, pas d'excuses, je sais que t'as toujours faim, t'es comme moi. surtout le premier jour du ramadan, t'as encore plus faim que d'habitude.
Ah, c'est clair, hein, franchement.
Mais ça va, encore un peu de patience, tu vas pouvoir passer à table. Alors, Wadi, justement, toi, comment tu sensibilises tes clients à l'importance de consommer des viandes de qualité?
Je leur explique que la viande, c'est pas bon d'en manger tous les jours, ça c'est sûr. Surtout en venant dans des boucheries comme les miennes ou les jumeaux ou d'autres boucheries qui travaillent d'un point de vue qualitatif.
Ouais, c'est le flexitarisme, on mange moins de viande mais on en mange mieux.
Voilà, on va essayer de... Le problème de la viande, c'est qu'on a eu des habitudes, nous, alimentaires, chez les parents, on mangeait toujours de la viande.
Surtout pendant le ramadan. Ramadan, il faut qu'il y ait de la viande à tous les étages.
Chaque jour, il y a une cocotte, elle était remplie et c'était la viande, c'était un repas noble, c'était obligatoire la viande à chaque repas. Mais en fin de compte, non, on peut manger de la viande deux fois par semaine en viande rouge, viande blanche et toujours une tranche d'abat. Et croyez-moi, garder de la place pour le poisson et la semaine elle est finie quoi.
Ouais. Alors hormis le fait de faire des viandes halal et des viandes issues de l'agriculture bio.
Voilà.
Élevées dans le respect du cahier des charges
bien-être
et du bien-être animal, quelles sont toi les valeurs qui te guident en tant que boucher, on peut dire spécialisé quoi?
La connaissance des produits qu'on vend, la transparence envers nos clients. La propreté, très important pour nous. Aussi être toujours disponible pour les clients, les conseils de cuisson. C'est tout un ensemble qui est très important et qui tout le monde ne peut pas ouvrir des boucheries comme les nôtres en se mettant bio et en pensant avoir du monde. C'est tout un ensemble que ça regroupe.
Oui, c'est ça. Il faut effectivement aussi savoir préparer
exactement.
Une viande. Il faut connaître la découpe. Ouais. Il faut voilà. Et puis quand on va dans des boucheries premium entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il faut accepter de par exemple, on parlait du collier d'agneau. Je veux dire, toi, quand t'achètes un agneau, il y a combien de tranches tranche de collier. Parce que toi, tu n'achètes pas du collier d'agneau, tu achètes un agneau entier.
Exactement, on achète un agneau entier et sur un agneau, on va avoir à peu près 6 tranches de collier.
Ouais. Donc et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus.
Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est là que normalement le travail d'expert intervient et on va pouvoir proposer des équivalents à des clients qui vont se rapprocher au niveau du prix.
Ah oui, si c'est pour une soupe, etc. Si c'est pour une chorba, une harira, on peut mettre de la poitrine à la place du collier.
Exactement.
D'ailleurs, moi, je préfère la poitrine.
Exactement. Et pour ceux qui cherchent encore plus noble, des tranches de gigot coupées en petits morceaux. Parce qu'il y en a qui cherchent vraiment la viande et pas le gras, quoi.
Oui, bien sûr. Oui, alors c'est vrai qu'après, c'est vrai que l'agneau, c'est une viande où on a la chance entre le gigot, la poitrine, l'épaule, le collier, on a vraiment la selle, etc. On a vraiment des morceaux qui vont du plus gourmand, un peu grassouille, jusqu'au plus maigre.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça l'avantage de l'agneau.
Alors, d'ailleurs, puisqu'on parle de type de viande, quelles sont les viandes qui marchent le mieux pendant le ramadan? Parce que c'est vrai que d'une année sur l'autre, parfois, ça peut changer un peu. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des stars. On parle du filet de poulet, de la kefta. Ouais.
On a les incontournables, ça. Peu importe si on est l'atelier de la viande ou une boucherie classique, basique. On va nous demander tout de suite automatiquement 1 kilo de viande hachée et 1 kilo d'escalope de poulet.
Ouais, normal, c'est la base.
Shorba, brik, burek, tout ce qui s'ensuit, l'aristocrate va manger ça pendant le ramadan d'abord.
Ah oui, c'est sûr.
C'est les incontournables. Et après, petit à petit, on va commencer à rentrer dans des rôtis spécialisés. Et on va.
Oui, tu fais des rôtis, comme font les bouchers tradis, entre guillemets, voilà. Des rôtis Orloff.
Exactement.
Alors tu remplaces la saucisse avec du porc par d'autres.
Du veau, beaucoup. Pour le Orloff, c'est le fromage qu'on va mettre avec le veau. Après, on va avoir beaucoup de préparations à base de chorizo aussi, puisqu'on a un chorizo pur bœuf. On a quasiment tout en charcuterie, qui vont être toutes les viandes sauf le porc, bien sûr.
Alors, oui, évidemment. Alors, dans les boucheries halal, il y a toujours une viande, une mode des viandes marinées. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi ou pas
On va avoir un petit peu de viande marinée, pas trop. Parce qu'il faut savoir que souvent, quand il y a trop de marinade dans une boucherie, c'est que ça cache quelque chose.
C'est ce que j'allais te dire. C'est pour faire clairement. De la repasse.
Voilà. La marinade repousse la DLC de 2 ou 3 jours. Nous, on va en avoir un petit peu. Parce que voilà, comme mon incontournable, c'est la cuisse de poulet des océans marinés. C'est un poulet braisé qu'on fait, qui est exceptionnel pour ceux qui ne l'ont jamais goûté. De là, sauf que là, on part sur des cuisses bio qui ont été préparées. Le jour même et qui ont été marinés le jour même.
Bon, la bonne idée, c'est peut-être de dire aux gens, chez votre boucher, achetez des viandes non marinées, faites-les mariner vous-même.
Alors, la marinade, ça va dépendre. On a des marinades aussi qu'on a, nous, en tant que boucher.
Avec le secret de la marinade.
Voilà, il y aura des choses qui vont être compliquées. Mais ce n'est pas grave de prendre mariné. Mais ce qu'il faut juste, c'est aussi ne pas hésiter à demander au boucher, je peux les garder combien de temps, depuis quand elles ont été marinées.
Ouais,
ce n'est pas une honte de demander à son boucher.
Mais bien sûr, en plus c'est souvent des bons conseils. Quoi.
Exactement.
Parce que la marinade, ça apporte de la tendreté. Alors, c'est vrai que dans la communauté, où on a tendance à surcuire les viandes. Hein, la cuisson bleu saignant, on ne connaît pas. C'est plutôt à point, voire même très cuit. C'est vrai que la marinade permet de garder une certaine tendreté pour les viandes.
Ouais, l'avantage de la marinade, c'est que déjà, on n'a pas besoin de rajouter de matière grasse. Donc, dès le départ, pour une personne qui va manger à point.
Enfin,
ou
moi,
rosé,
les marinades, je mets un peu d'huile d'olive, moi, quand même.
Après, ça va dépendre sur quoi pour altérer.
De sésame, quand je fais de l'asiatique, tu sais.
Mais c'est vrai que si, même, je trouve, dans la vitrine, ça donne toujours plus envie quand tu vois les viandes marinées. Et tu sais, ça attire l'œil quand même, tu vois.
C'est vrai. Alors prenez des viandes marinées chez des bouchers qui ont un bon savoir-faire, ouais. Parce que comme le dit Wadi, c'est vrai que quand on a plus de viande marinée que de viande fraîche dans l'étal chez l'étal d'un boucher.
C'est exactement ça. Le ratio, faites attention. Ouais, si vous arrivez et tout est mariné, c'est pas bon.
C'est pas voilà. Un bon signe.
Si un petit peu est mariné, vous pouvez poser des questions.
Ou les merguez qui sont rouges, presque violettes.
Ouais, hein. Les lucioles. Celle-là.
Ouais, c'est ça.
Si on éteint la lumière, on peut les.
Sont radioactives. Ah ouais. Avec beaucoup de colorants et beaucoup d'épices, ça aussi, souvent, ça cache des viandes plus très fraîches.
Ouais.
Bon, en tous les cas, si vous allez chez Wadi, à l'atelier de la viande, 55 rue Claude de Caen, dans le 12e, vous n'aurez pas ce genre de problème, et je peux en témoigner, puisque j'achète régulièrement de la viande chez Wadi quand j'ai le temps de voyager jusque dans le 12e.
T'as déjà goûté, tu goûtes notre viande.
C'est vrai, absolument, et je l'aime beaucoup, surtout l'agneau, moi je suis un dingue d'agneau, moi. Et puis, sur Instagram aussi, hein, l'atelier de la viande, tout attaché, sans apostrophe.
Exactement.
Vous retrouvez un peu les actus, les promos, les et tutti quanti. En tous les cas, Wadi, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va parler avec Salah de la brigade qui. Alors, moi, j'arrête pas d'entendre dire que la brigade des fast-foods c'est terminé, mais pourtant, Salah, c'est toujours la brigade.
Comment dirais-je ? Je dirais que officiellement, oui, officieusement, je peux pas t'en dire un peu plus.
Bon,
mais
on en reparle après la pause.
Avec plaisir.
À tout de suite dans Chacun son tour.
Chacun son tour revient dans un instant. 16h, 17h, chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans Chacun son tour avec notre invité du jour, Wadi Jriri, l'atelier de la viande, 55 rue Claude Decamp, Paris 12e. Boucherie de qualité, viande halal, bio.
Exactement.
Avec des bêtes bien élevées.
Bien élevé.
Wadi aussi est bien élevé, rassurez-vous.
Merci. Toi aussi, Manu. Salah aussi. Tout le monde est bien élevé ici.
Merci, merci. Alors, et puis en ce premier jour de Ramadan, nous avons, pour nos adresses secrètes des influenceurs, nous avons un influenceur influent aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Salah de la Brigade.
Bonjour à tous.
Salut Salah.
Salut, salut, salut Wadi.
Salut Salah, salam.
Écoute, t'étais un peu dans les embouteillages aujourd'hui.
Ouais, comme d'habitude, c'est vrai que pour venir ici, je me plains pas, ça va encore. Ça a assez bien roulé, je suis parti un peu à la bourre, mais bon, franchement, ça va, ça roule pas si mal.
De toute façon, on a l'habitude.
Hein, moi et le retard, ouais, c'est une longue histoire.
Quand les gens me disent, mais il y avait pas ça là aujourd'hui, je dis, bon, il va arriver. T'inquiète,
mais
il va arriver.
Je finis toujours par arriver quand même, t'as vu?
C'est vrai. Bon, en tous les cas, on est ravis de retrouver ta voix très radiophonique.
Avec plaisir.
Ah oui, il a une bonne voix de radio.
C'est vrai.
Ah ouais, ouais.
Bon, écoute, ça fait plaisir.
Tu peux te faire caster sur toutes les radios.
J'ai pas
ça
le
passe.
Casque, donc je m'entends pas en fait, tu vois.
C'est vrai. Ah non, mais là je t'entends.
Je te fais confiance.
Voilà. Et les auditeurs t'entendent aussi, bien entendu. Et on va t'entendre parler de deux belles adresses aujourd'hui. Mais bon, on parlait de la brigade, anciennement la brigade des fast-foods.
Je peux pas en dire trop, Manu.
Avec Florian Honner.
Ouais.
Ça se dissout, ça se reforme.
Ouais, exact. Hein. En fait, à la base, c'est pas qu'on l'a dissout, c'est qu'on est arrivé, on va dire, à un cycle où on pensait qu'on avait vraiment fait le tour. Donc c'est pour ça qu'on a.
Comme les Beatles, un peu.
Ouais, voilà. Florian dit toujours qu'il a préféré partir quand on était en haut du podium, tu vois. Donc
c'est ça, ouais.
Quand ça marchait bien, en fait, on a arrêté. Et du coup, on est en train de réfléchir. Parce que tout le monde a envie de reprendre, en fait, forcément.
Voilà,
parce
on
que
vous, quand on vous se retrouve, voit toujours dans les vidéos avec Florian Honner.
Et à chaque fois qu'on se retrouve, tu sais, forcément, ça revient en tête de se dire bon, c'était bien quand même.
Et quelqu'un qu'on voit souvent dans vos vidéos respectives, c'est Saïf. Hein,
oui.
Et Saïf qui rejoint l'équipe, qui rejoint la team, chacun son tour.
Exactement.
On l'embrasse s'il nous écoute.
Un grand salam à Saïf.
Ouais.
Exact. On le voit souvent avec les vidéos d'Isma maintenant.
Bah oui, avant il arrivait par accident à chaque fois dans les vidéos.
C'est vrai.
Ouais. On doutait vraiment de la véracité du truc, du hasard. mais bon, maintenant on est toujours heureux de le voir dans les vidéos et on sera ravis de l'avoir cette année. Alors pour commencer, Salah, tu vas nous emmener dans une adresse un peu fusion.
On va dire un food court, mais moi j'aime pas dire food court ou tu sais fast casual. Je trouve ça un peu réducteur. Ouais, souvent. Ça s'appelle Otestit, en fait, c'est à Bagnolet. Plus précisément, c'est situé 27 rue François Mitterrand à Bagnolet. Et en fait, c'est un restaurant qui propose une large gamme. Ça va vraiment de la brasserie au burger. Ils ont un côté thaï. Et pourquoi moi je parle de cette adresse-là ? Parce qu'il y en a pas mal, des adresses qui proposent un peu tous ces types de cuisine. C'est surtout au niveau qualitatif, parce que tout est fait maison. Donc, ce qui est assez rare quand même, ça a souligné. Moi, ça m'avait déjà étonné. Tiens, ça tombe bien qu'on ait Wadi en plus qui est bouché, puisque moi, la première chose qui m'a étonné quand j'étais dans leur cuisine, c'est qu'ils avaient, tu sais, les gros blocs de viande en fait qui arrivaient.
Okay.
Et le chef, il devait découper, il devait faire ses bavettes, il devait faire ses filets.
Alors,
et tout. Chose que je vois pas souvent.
De mon temps, moi, je suis beaucoup dans les cuisines, c'était toujours comme ça dans les cuisines,
ouais,
fut un temps.
Maintenant.
C'est vrai que maintenant.
Ça s'était perdu, ça.
On reçoit des viandes piécées. Les fournisseurs à Rungis, les restaurants leur disent tu le mets 10 entrecôtes sur 80 grammes piécées, etc.
Exact.
Il y a plus ce travail de la découpe de la viande. Enfin, moi, j'ai fait l'école hôtelière dans une décennie que je ne citerai pas. Mais c'est vrai qu'on apprenait effectivement à piécer la viande.
Ouais, mais là, maintenant, les cuisiniers, il faut savoir une chose, c'est qu'ils envoient les assiettes. Il y a, c'est compliqué de leur demander aussi des fois de déhancher, de désosser un déhanché,
pour
leur couper des entrecôtes.
C'est un métier.
C'est un travail en plus. Qui dit travail en plus va demander salaire en plus.
Ouais.
Donc tout le monde s'embrouille à la fin.
Mais puis je pense qu'un, enfin, on va dire comme disait Manu, je pense que le travail d'un vrai chef, ça devrait être ça.
Ah, c'est ça.
Mais aujourd'hui, c'est dur de trouver des chefs qui savent désosser, faire des filets, aller chercher de la bavette.
J'ai des cuisiniers qui me demandent une formation de boucher, ils me demandent des stages d'une semaine. Et tu sens que les mecs, ils se remettent en question.
Ouais, bah moi, c'est ce qui m'a étonné là-bas quand je suis rentré en cuisine, j'ai vu ça, j'ai dit. C'est rare que je vois en cuisine vraiment qui coupe les filets,
etc. C'est très bien. C'est...
Et franchement, tout est fait maison. Et c'est les plats, en tout cas côté brasserie, sont vraiment hyper bons avec les sauces faites maison. Moi, c'est devenu quasiment ma cantine quand je suis dans le 93. Je sais que je vais toujours là-bas à Bagnolet. Ils ont donc le côté taille également. Et moi, je dirais, enfin, on va dire mes plats coup de cœur que je prends quand je vais là-bas, c'est la bavette. Alors moi, on m'a dit, je sais pas, c'est quoi le meilleur morceau hein, dans le bœuf, mais la bavette pour moi, c'est le meilleur.
Alors, la bavette, c'est un très bon compromis pour ceux qui aiment la viande filandreuse et tendre.
Ouais.
Alors il y a l'onglet aussi. Hein,
voilà. L'onglet
qui est pas une viande de boucherie. C'est pas une viande, donc normalement, c'est un abat. On considère ça comme un abat, l'onglet. Mais ça reste du muscle quand même. Hein,
exactement.
Et c'est vrai qu'en général, les amateurs de bavette aiment beaucoup l'onglet aussi.
Exactement.
Hein. Bah, moi, le problème que j'ai quand je vais chez mon boucher, j'ai du mal à trouver de la bavette. Il en a pas toujours. Parce qu'il me dit qu'il n'y a pas beaucoup de...
Bah c'est bon signe.
Sur une bête.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ça veut dire qu'il ne fait pas de rachat.
Ouais, ouais.
Et sur une bête, il va recevoir... il va avoir deux bavettes. Et sur les deux bavettes, quand ils vont être désossés et épluchés, il va lui rester peut-être 4 kilos de bavettes.
Ouais, c'est incroyable.
Mais il suffit qu'il y ait 3 clients qui demandent un kilo.
Il
n'y
a pas grand-chose. Ouais, ouais.
Ouais. Donc, et puis, c'est ce qu'on appelle les morceaux du boucher. Hein. Il y a l'araignée, le merlan, la poire, qui sont les meilleurs morceaux, mais il n'y en a pas beaucoup.
Ouais. Ouais. La surprise. Ouais,
la surprise aussi.
La surprise, ouais.
Ouais. Ouais, donc, vraiment, les plats, on va dire, côté brasserie, sont vraiment hyper goûtus, hyper bons. Et là aussi, un côté où il fait les sandwichs baguettes, qui sont un peu tendance aujourd'hui. Ou parce que il a un vrai côté viande qu'il maîtrise en fait.
Ouais, des sandwichs baguettes avec de la viande marinée, etc.
Exactement. C'est... Ouais. Donc il fait du veau mariné, il fait du bœuf et là il a sorti celui à l'agneau avec une poivronade et ça c'est vraiment un délice.
Ouais, sandwich baguette. On pourrait dire que c'est un peu
agneau poivronade.
Un peu le sandwich kebab premium, un peu.
Oui,
haut de gamme,
oui. Tu sens quand même vraiment
cuisiné.
Le goût de la viande. Voilà.
Un peu cuisiné. Ouais,
c'est vraiment hyper bon là-bas chez Otestit en tout cas à Bagnolet. Moi je vous le conseille.
Mais ils ont une bonne réputation.
Ouais.
Moi en tant que boucher j'ai déjà entendu parler d'eux et.
Bravo,
rester sur cette rigueur.
Ouais.
On trouve aussi des pastas, on trouve des plats un petit peu asiatiques. J'ai vu qu'il y avait un tigre qui pleure.
Oui, exact. T'as le tigre qui pleure, t'as le krao pat.
Ce plat thaïlandais, pas tout à fait thaïlandais.
On ne sait jamais l'origine du tigre qui pleure. Et bon, t'as du krao pat, t'as du pad thaï. Mais moi, j'insiste plus sur le côté brasserie et les sandwichs baguettes que vraiment je trouve qu'ils sont de qualité.
Ça mérite bien son nom de food court. Il y a une vraie variété de.
Exactement.
Voilà.
Tout à fait.
C'est pas un food court où il y a plusieurs enseignes différentes. C'est un food court où il y a plusieurs cuisines différentes.
C'est ça. C'est exactement ça. Tout à fait. C'est-à-dire que tu viens entre amis. Il y en a. Tout le monde y trouve son compte. Et surtout, de qualité, quoi.
Bon, eh bien, la World Food, c'est donc chez
Otestit à Bagnolet.
Otestit, 27 rue François Mitterrand, Bagnolet.
C'est ça, tout à fait.
Est-ce que tu sais s'il y a des trucs spéciaux qui sont prévenus pendant le Ramadan?
Pour le Ramadan, il va en fait, c'est simplement, on va dire le côté accueil, c'est-à-dire tu vas avoir des dates, du lait qui sont vraiment à disposition.
D'accord, mais on peut quand même choisir à la carte.
Exactement, c'est à la carte.
Bah, c'est pas plus mal. Il y a des gens qui aiment pas les menus imposés pour le four.
Ouais. Moi, j'aime pas trop les menus imposés en général. J'aime bien choisir.
Parce que ça là, il est libre. Ouais. Bon, et ben ça là, écoute, sans transition, on va partir. Tu vas nous emmener à Naples.
Ah là, c'est le cœur qui parle.
Ouais. Oui, parce que toi, t'es un grand amateur. D'ailleurs, je t'ai dit, hein, je t'ai envoyé un petit message quand j'ai vu que tu allais parler d'une adresse napolitaine. Je dis, mais tiens, t'es devenu Tounsi.
Non. Moi, j'ai toujours vraiment beaucoup aimé la cuisine italienne. J'étais beaucoup une partie de ma vie en Italie, donc je pense que c'est peut-être les restes qui m'ont marqué. Et là, je vous parlais en fait d'une adresse qui s'appelle Nona et Nono. C'est un restaurant qui est situé.
Alors, ça veut dire, si on traduit en français, ça veut dire mamie et papy. Hein.
Exactement.
Voilà.
Tout à fait. Et c'est réel, hein, puisque c'est la cuisine de grand-mère et la cuisine du grand-père, en fait, dont ils ont hérité, en fait, tout simplement. Et ils perpétuent, en fait, si tu veux, ces recettes. Donc, ça se situe à Val d'Europe. C'est au niveau du centre commercial, ça s'appelle la place Toscane, il y a une petite
place.
C'est
à Céris,
exactement.
Hein, à Val d'Europe. Et il y a une deuxième adresse, hein,
à Noisy-le-Grand.
Grand, ouais.
Dans le centre commercial également, aux Arcades.
Centre commercial Arcade, ouais.
Exact.
Donc,
moi, c'est mon adresse, on va dire, quand je veux manger italien. Je sais que c'est une valeur sûre. Donc, de l'entrée au plat jusqu'au dessert, franchement, on se régale. Et surtout, ils ont une grande variété et des plats peut-être qu'on a moins l'habitude de voir, tu sais, que ce qu'on voit régulièrement dans les restaurants italiens. Moi, si je peux vous faire une suggestion de ce que je prends en général, en entrée, moi, je vous conseille les tartines d'olive et la stracciatella. Donc, c'est des tartines d'olive, en fait, qui sont mises sur une pâte à pizza et que tu viens tremper dans de la stracciatella.
Ouais, c'est comme une tapenade, un petit peu.
Ouais, ça ressemble un peu à une tapenade sur de la pâte à pizza. Ils ont également les pizzas fritas. Je sais pas si tu connais, Manu, les pizzas fritas qui sont typiques de Naples.
Ça fait souffler un peu la pâte, c'est sympa.
Ils sont frits, en fait, c'est une pizza frite. Ça, c'est vraiment très, très bon. Et en termes de plat, moi, là-bas, j'ai mon plat qui m'est fétiche, c'est les rigatoni tartufo. Donc rigatoni,
un petit peu de truffe, ça fait jamais de mal.
Exactement. Et également un plat que j'aime beaucoup prendre, c'est les linguini gamberetti. Donc c'est des linguini avec des crevettes sautées à l'ail, assez relevées, pimentées avec un peu de courgettes. Mais c'est vraiment un très très bon restaurant italien. Ils ont des plats également halal parce qu'à la base c'est pas un restaurant.
Oui c'est ça, c'est pas halal. Un restaurant halal, mais
non,
déjà hors viande.
Oui.
Il y a suffisamment de choses.
Exactement.
Puisque la cuisine napolitaine est une cuisine très très légumière. Mm-hmm. Hein.
Exactement, c'est vrai. Donc mais maintenant ils se sont mis un peu à proposer des plats halal, c'est-à-dire que leur partie, enfin tout ce qui est plat poulet à base de poulet et à base de bœuf. Sont halal.
Donc le carpaccio, ça passe.
Exactement.
D'accord.
Et peut-être bientôt, apparemment, la charcuterie halal, mais ça tombe bien que Wadi soit là parce qu'ils sont à la recherche un peu de charcuterie fine halal.
Ça va discuter.
Ils sont les bienvenus.
Ça va discuter à faire pendant la pub.
Mais en tout cas, c'est une adresse à faire. Hein. C'est Nona et Nono et c'est à Val d'Europe.
D'accord. Bon, eh bien, on rappelle l'adresse, hein, 7 place de Toscane, à Cerise, Val d'Europe. Et puis, pour ceux qui sont dans le 93, centre commercial Arcade, 234 boulevard du Mont d'Est. Les amis, il nous reste quand même une 2 minutes. 2 minutes, allez. Il est généreux, Fodil.
Il nous a mis en panique. Je voyais ses doigts bouger. Je me suis dit, ça y est, il faut rendre l'antenne.
Parce que bon, ça nous oblige à dire au revoir à la vitesse d'une mitraillette. Et bon, en tous les cas, c'est une adresse qui fait très envie. Hein. J'ai regardé un petit peu leur Instagram.
C'est délicieux.
Leur Instagram, d'ailleurs, c'est Nonna et Nonno avec deux N. Hein.
Exactement.
N-O-2-N-A et E-T, Nonno et N-O-2-N-O. Il y a aussi un site internet où vous pourrez retrouver la carte des deux adresses.
Et la déco du resto aussi est hyper sympa, ce restaurant de Val d'Europe.
J'ai vu des rigatoni, la napolitaine, qu'on a démentielle.
C'est un peu dur d'en parler à cette heure-ci, si tu veux, Manu. Mais non, franchement, surtout que moi, la cuisine italienne, je te disais, c'est un peu ma cuisine préférée, franchement. Mmh. Et c'est pour moi l'une des meilleures adresses, en tout cas en restauration italienne.
D'accord.
Napolitaine.
Bon. Eh ben, écoutez, découvrez cette adresse dès que possible. Wadi, toi, tu fais des, tu aimes la cuisine italienne?
Oui, j'aime bien. Je sers même un Italien qui se trouve rue Claude Decan, qui est très bien aussi.
D'accord.
Et qui a une très belle préparation.
Alors, profites-en. Donne-nous l'adresse.
Voilà.
Enfin, rue Claude Decan, tu l'as dit.
Voilà.
Ça s'appelle
La Taranta. Donc, c'est d'accord. À l'entrée de la rue Claude Decan. Il a aussi une gamme halal et non halal. Et pour tout ce qui est lasagne, plat préparé, ça vient de chez moi. Tout ce qui est à base de viande hachée, ça vient de chez moi. Ouais.
Charcuterie fine, pas encore.
Voilà,
Maudie,
non, pas encore la charcuterie fine. Yeah,
le jambon de Parme halal.
Voilà, donc après, on ne peut pas pousser les fournisseurs. Ceux qui veulent, on est là.
Mm-hmm. Bon, et ben, ce sera le mot de la fin. Si vous voulez de nouvelles adresses, vous nous retrouvez demain à partir de 16h. Et oui, c'est un peu plus tôt, hein, puisque là, le ramadan commence en pleine heure d'hiver. Donc là, maintenant, vous allez retrouver Philippe Robichon, l'imam Abdelali et leurs invités pour la suite des programmes. Et par avance, on vous souhaite une très bonne rupture du jeûne.
Saraf Tolkom, merci.
Allez, à demain.
Au revoir.
Retrouvez chacun son tour tous les jours de 16h à 17h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.